Bonjour, c'est Axel Le Tarlet. Vous allez écouter C'est dans l'air, l'intégrale. C'est un podcast de France Télévisions. C'est tout de suite.
Bonsoir à toutes et à tous. Plusieurs explosions ont retenti en Iran la nuit dernière à proximité de sites militaires. Alors Israël, même s'il ne revendique pas, a donc répliqué en lançant une attaque de drone contre le régime des Mollahs. Comment interpréter cette riposte israélienne? D'autres actions militaires vont-elles suivre? Téhéran pourrait-il mettre à exécution sa menace, je cite, d'une réponse plus féroce, même si de part et d'autre on minimise l'impact de ces attaques aériennes? L'Ukraine, elle, ne peut pas en dire autant. La nuit dernière, une nouvelle attaque russe a fait au moins 8 morts et une vingtaine de blessés. Et Kiev se désespère de l'aide occidentale. Selon la CIA, d'ailleurs, faute d'aide supplémentaire, l'Ukraine perdra la guerre cette année. C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir « Israël riposte, l'Ukraine appelle à l'aide ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir le général Dominique Trinquant. Vous êtes ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Votre livre « Ce qui nous attend, l'effet papillon des conflits mondiaux », c'est aux éditions Robert Laffont. Anne Niva, bonsoir, vous êtes reporter de guerre. Votre livre « La haine et le déni avec les Ukrainiens et les Russes dans la guerre », c'est aux éditions Flammarion. Isabelle Lasserre, correspondante diplomatique au Figaro, spécialiste des questions de stratégie et de géopolitique. Votre livre « Macron, Poutine, les liaisons dangereuses », c'est aux éditions de l'Observatoire. Et enfin, Alain Pirot, vous êtes journaliste spécialiste des questions de défense. Merci de participer à cette émission en direct. Alain Pirot, on va peut-être commencer avec vous, avec ce qui est l'actualité de la journée. C'est le consulat d'Iran qui a été bouclé une bonne partie de l'après-midi. On va voir des images. Hein. Et ce, suite à l'intrusion d'un homme qui a menacé de se faire exploser. Il y a eu pas mal de confusion. Sait-on quel était le profil de cet homme et ce qu'il cherchait à faire?
Alors visiblement, c'était un franco-iranien de 61 ans qui, dans l'idée de soutenir et d'afficher son soutien à la rébellion populaire qui se joue aussi en Iran, parce qu'on évoque l'Iran de manière habituelle chaque semaine par rapport aux attaques qui sont menées par le régime iranien, mais il ne faut pas oublier que ce régime est contesté depuis un long moment désormais. Donc cet homme, visiblement, avait tenté de, en tout cas c'était sa revendication, de se faire exploser pour soutenir une partie de sa révolte en termes de symboles. Visiblement, ses équipements étaient factices et il a été interpellé par la BRI qui est intervenue assez rapidement.
Isabelle Lasserre, c'est vrai qu'on en parle moins, mais ces jours-ci, on a des images qui nous reviennent d'Iran. La police des mœurs sévit, renforce ses contrôles contre les femmes iraniennes qui ne porteraient pas le voile, comme si au fond, les mollahs se disaient « si les femmes ne portent plus le voile, c'est le début de la fin de notre régime ». Pourquoi cette fixation ainsi à ce point sur ce port du voile des iraniennes qui le porteraient mal?
Ah bah oui, mais il y a un bras de fer qui va durer très très longtemps. C'est-à-dire que toute la question est polarisée sur le voile des femmes. La résistance en Iran, elle n'a jamais, elle n'a jamais cessé, même si on en parle beaucoup moins. C'est comme une espèce de vague souterraine qui se prolonge vraiment très très longtemps et que les femmes payent très très cher. Et régulièrement, tous les deux ou les trois mois, les mollahs, effectivement, essayent de reprendre la main et d'essayer de faire repartir en arrière ce mouvement. Et là, on a deux volontés qui s'entrechoquent. Pour l'instant, c'est le régime qui gagne, mais il n'a pas eu la peau des femmes et il n'a pas réussi à leur faire remettre leur voile aujourd'hui.
Pourtant, général Trinquant, on dit que quand un pays est attaqué, ce qui est le cas de l'Iran, il a été attaqué la nuit dernière et il a été attaqué, il est en tension extrême avec Israël, il y a un effet drapeau, le peuple s'unit derrière ses dirigeants pour faire bloc face à Israël.
Oui, mais enfin, comme on vient de l'expliquer, en Iran, il y a des problèmes internes importants. Il y a d'abord une lutte entre les Pasdaran, qui, je le rappelle, sont à l'origine un peu la police du régime, mais qui sont en fait une troupe qui s'est formée, une troupe d'élite pour l'action extérieure, mais l'action intérieure, et qui est très mafieuse, hein, qui est liée avec des tas de contrats, des tas de trafics, etc. Et les mollahs qui, eux, fournissent le socle, j'allais dire, idéologique. Et la population qui s'oppose aux deux, qui s'oppose à cette mainmise des mollahs idéologiques et aux Pasdaran qui, par leur brutalité, s'opposent à la population. Donc il y a beaucoup en interne, il y a beaucoup de confrontations. Alors qu'on a suivi un petit peu lorsqu'on a parlé du problème des voiles, du voile pour les femmes en Iran. Et puis, comme d'habitude, j'allais dire, on se fatigue de suivre les informations pendant longtemps. On n'en parle plus. Mais ça ne s'est pas arrêté en Iran.
Parce qu'à chaque fois, Niva, on espère que le combat du peuple, le combat des femmes, va réussir à faire tomber ce régime. Et à chaque fois, on a l'impression qu'en fait, il a raison, il mate. Et que la loi du plus fort, le pouvoir l'emporte sur la volonté du peuple.
Non, enfin, il faut être patient. Le régime des mollahs en Iran existe jusqu'au moment où il tombera. C'est la même chose en Russie. Vladimir Poutine est là jusqu'au moment où il tombera. Donc on a cette impression que tout est immuable, mais rien n'est immuable. Tout est toujours en train de bouger. Et effectivement, comme Isabelle l'a dit, le combat des femmes en Iran, d'abord, il n'a pas débuté récemment et il n'est pas fini. Et c'est un combat de tous les instants. Et nous, on en parle davantage dans les médias occidentaux aujourd'hui parce qu'il y a les médias sociaux, parce qu'il y a cette horizontalité mondiale, mais il existait avant et il n'est pas fini pour autant.
Alors, l'Iran a donc été touché par, parce que c'est l'autre actualité qui concerne l'Iran, c'est que le pays a été touché en son centre cette nuit par plusieurs explosions, notamment à proximité d'installations nucléaires. Une attaque israélienne, selon les médias américains, et ce, en réponse aux tirs de missiles de drones de l'État hébreu le week-end dernier. Téhéran minimise, les États-Unis appellent au calme. Sujet de Anaïs Guérard et Christophe Roquet.
À l'aube, trois explosions dans le ciel iranien. Les médias américains parlent d'une attaque israélienne.
À la une de l'actualité, cette attaque au Moyen-Orient. Deux officiels américains l'ont rapporté à CBS, un missile israélien a frappé l'Iran.
Israël a bien frappé l'Iran cette nuit. La zone touchée est située à 2000 km au sud de la capitale, Téhéran.
À 2000 km de Téhéran, près de la ville d'Ispahan, une cible de choix où sont situées plusieurs bases militaires. Pourtant, à la télévision iranienne, le ton est très différent. Les images sont rassurantes, les habitants d'Ispahan se rendent au travail, le trafic aérien reprend, pas de dégâts majeurs annonce le régime, aucune mention d'Israël, l'Iran minimise.
Grâce à notre vigilance, plusieurs objets volants ont été abattus.
Du côté d'Israël, silence radio, mais cela ressemble fort à une riposte. Le week-end dernier, l'Iran tirait plus de 300 drones et missiles sur l'État hébreu. La manœuvre militaire était alors célébrée dans les rues de Téhéran.
Nous espérons que cette attaque continuera jusqu'à détruire Israël.
Israël convoque un conseil de guerre.
Nous nous défendrons contre toute menace et le ferons avec sang-froid et détermination.
Cette nuit-là, 99% des armes iraniennes sont détruites avant d'atteindre leur cible. Des interceptions rendues possibles, notamment grâce aux pilotes américains.
Vous avez fait une énorme différence en sauvant potentiellement beaucoup de vies. Grâce à votre talent extraordinaire, les États-Unis ont aidé Israël à détruire presque tous ses missiles entrants.
Un soutien indéfectible en matière de défense, mais pas d'appel à la vengeance. Aujourd'hui, les États-Unis prennent d'ailleurs leur distance avec l'attaque de la nuit dernière.
Les États-Unis ne sont impliqués dans aucune opération offensive. Tout ce que je peux dire de notre côté et de celui des membres du G7 est que notre objectif est la désescalade.
Une opération de dissuasion et un retour à l'équilibre. Si certains se veulent optimistes, le monde entier craint toujours l'embrasement du Moyen-Orient.
La Chine s'oppose à toute action susceptible d'entraîner une escalade des tensions et continuera à jouer un rôle constructif pour une désescalade.
Nous devons faire tout notre possible pour contenir toutes les parties prenantes et éviter une escalade dans cette région. Nous avons vu l'attaque massive d'environ 300 drones et missiles de l'Iran contre Israël. C'est absolument nécessaire que la région reste stable et que toutes les parties s'abstiennent d'actions futures.
Une suite déjà redoutée en Israël. L'ambassade américaine a demandé à son personnel de limiter ses déplacements. L'Australie, elle, exhorte ses ressortissants à quitter le pays, évoquant un risque de représailles.
Alors, question téléspectateur, général Dominique Trinquant. C'est Dominique dans le Haut-Rhin. Israël, deux points, une réponse modérée pour la forme, point d'interrogation. C'est vrai qu'on parle de drones de faible portée.
Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ce que vous dites, là, c'est la version iranienne. C'est-à-dire, on minimise en disant même, et c'est un comble, qu'il y aurait des agents iraniens, israéliens pardon, en Iran qui manipuleraient des drones, ce qui est quand même une preuve
d'action. Ces drones auraient été tirés
de l'intérieur
par des agents israéliens infiltrés, mais depuis le territoire iranien.
Voilà, alors ça c'est la version iranienne, et je trouve déjà énorme qu'ils puissent accepter de dire que finalement leur territoire n'est pas sûr. Ça c'est la première. La version israélienne reprise par les Américains, c'est que ce sont des missiles. Donc ce n'est pas du tout la même chose. Et je pense que, si vous me permettez une image d'escrime, c'est attaque, fausse attaque, attaque. Vous faites une attaque vis-à-vis, je parle de la part des Israéliens, vous faites une attaque vis-à-vis des Iraniens pour qu'ils se découvrent. Et ils se découvrent de deux façons, soit en disant ben, on va contre-attaquer, et à ce moment-là, la coalition américano pays arabes qui l'ont déjà déclaré, pour défendre Israël, se lie avec Israël et permet des frappes plus importantes de la part d'Israël. C'est donc la fausse attaque et l'attaque. Soit, ce qui semble être le cas en ce moment, j'allais dire, les Iraniens se dégonflent et disent, même pas mal, tout ça, ça compte pas, c'est pas important. Et d'une certaine façon, ceci restaure la dissuasion israélienne par rapport à l'Iran, en montrant, vous avez vu, les Iraniens, bah, finalement, ils ne sont pas capables. Quoi.
Alors, Anne Niva, que pensez-vous de ce qui s'est passé la nuit dernière? Est-ce qu'Israël chercherait à provoquer l'Iran? Et pourquoi l'Iran, c'est vrai, visiblement, fait tout pour minimiser l'attaque de drones qu'il a reçue la nuit dernière?
Non, mais là, quand il est question de riposter, enfin, on ne pouvait pas concevoir qu'Israël ne riposte pas. Donc, il fallait qu'Israël calibre sa riposte. Effectivement, le but, c'est de rétablir des niveaux de capacité de dissuasion, bien sûr. Israël, hier, en faisant ce qu'elle a fait, a rétabli sa capacité
attention,
de dissuasion.
Attention, on ne nous attaque pas, c'est
exactement.
Ça le message.
Mais ce qu'a fait la semaine dernière l'Iran en envoyant, en traversant cette ligne rouge, c'est-à-dire pour la première fois depuis la création de la République islamique, en envoyant directement des missiles sur Israël, avait également réagi à ce qu'elle estimait. C'est toujours action-réaction. Le 1er avril, qui était la frappe israélienne sur ce bâtiment consulaire à Damas. Donc là, l'Iran avait réagi et avait rétabli sa puissance, ses capacités de dissuasion. Donc ce que les Américains essayent de faire depuis cet embrasement, c'est d'essayer de essayer de convaincre qu'on aille plus loin dans l'escalade. Quand Joe Biden dit il faut que vous vous satisfassiez de votre victoire défensive, parce que c'est ce qu'il a dit, la victoire défensive, c'est le fait qu'Israël ait réussi à tout intercepter. Mais évidemment, ça n'a pas suffi à Israël.
Isabelle Lasserre, est-ce qu'au fond, Israël n'a qu'une envie, c'est d'aller au combat et surtout d'éradiquer le programme nucléaire iranien? Et au fond, c'est ça le fond de ce qui se passe.
Alors, je dirais que le programme nucléaire iranien, bien sûr, c'est l'éléphant dans la pièce. C'est le fantôme qui pèse sur toute la vie géopolitique du Moyen-Orient. Israël, depuis très longtemps, a juré qu'elle ne laisserait pas l'Iran devenir une puissance nucléaire. Et ce fait est pourtant en train, aujourd'hui, d'arriver. Alors là, il y a plusieurs solutions. Je pense qu'aujourd'hui, ni l'Iran, ni Israël n'ont intérêt, en fait, à déclarer une guerre globale. C'est lié au nucléaire, en partie. L'Iran, parce que, juste en utilisant ses affidés, ses proxys, sans intervenir directement, jusque-là, a réussi à étendre son influence. Il se délecte de la perte de réputation d'Israël. Il se présente comme le grand représentant de la cause islamique. Et surtout, il a appuyé sur la dernière, vitesse de son programme nucléaire qui avance, qui est en train de se terminer pendant que...
Tout va bien, je gagne en influence et je mène le programme nucléaire.
Si l'Iran demain attaque frontalement Israël de manière globale, générale, l'Iran risque une réponse militaire américaine et d'ailleurs peut-être aussi israélienne. Et là, la tentation qui existe chez les dirigeants israéliens, et même chez une partie des républicains, sera trop forte de se dire « saisissons l'opportunité ». Pour essayer de détruire une partie du programme nucléaire iranien et ainsi gagner 2 ans ou 3 ans du côté israélien. Et après, j'en ai fini. Israël n'a pas non plus intérêt à la guerre en ce moment, puisque c'est très compliqué de mener deux fronts
Gaza
à la fois.
Donc
je pense que tout ça, même, vous savez, même le fait que les Iraniens aient dit que c'était des drones, enfin que l'attaque était venue de l'intérieur. Alors, soit c'est vrai, et c'est d'ailleurs assez embêtant pour les Iraniens, soit c'est faux. Et si c'est faux, c'est dit en fait uniquement pour justifier la non-réponse de l'Iran à Israël. On n'a pas été attaqué par l'extérieur, on ne répond pas à l'extérieur. Mais même si les choses sont plutôt, à mon avis, en ce moment dans le sens de la désescalade, le dossier reste extrêmement pourri. Et à terme, la question du dossier nucléaire iranien...
Ne sera pas réglée.
Soit l'Iran, elle ne sera pas, n'est pas réglée. Donc il n'y a pas de solution, c'est comme le conflit au Proche-Orient. Mais la question de l'intervention militaire contre le programme nucléaire iranien, elle reste en l'air.
Général Trinquant, l'attaque israélienne de cette nuit, elle ciblait le centre où il y a des installations nucléaires iraniennes.
Oui,
alors, c'est pas ça qui a été visé.
À côté, alors, à deux heures.
Non, mais je pense que si vous voulez... dans une attaque militaire, il y a l'aspect politique, on vient d'en parler, il y a l'aspect militaire. Dans l'aspect militaire, il faut rappeler que dans ce raid, il y a eu destruction d'un radar en Syrie, qui est un radar qui permet de surveiller ce qui se passe en Israël au décollage des avions. Donc, le système d'alerte iranien, d'une certaine façon, a été détruit. Une frappe a eu lieu également en Irak, sur un bâtiment qui avait encore là des responsables des Pasdaran. Donc, deuxième attaque. Troisième attaque, si la version israélienne est la bonne, c'est-à-dire des missiles qui vont dans la région d'Ispahan. Ça permet de dire, messieurs les Iraniens, on est capable de vous toucher.
Au centre.
Mais en plus, de faire du renseignement. Parce que naturellement, les systèmes anti-aériens se dévoilent à ce moment-là. Et ça permet aux Iraniens d'avoir fait une reconnaissance. Parce que pour poursuivre ce que... aux Israéliens, pardon. Pour poursuivre ce que vient de dire Isabelle, moi je crois que fondamentalement, l'effet final recherché des Israéliens, c'est la neutralisation du pouvoir iranien. En profitant de la faiblesse interne, on en a parlé avant le reportage, et deuxièmement, en disant c'est maintenant ou jamais. Parce que sinon, le problème de l'arme nucléaire iranienne, eh ben, ils vont accélérer, ils vont l'avoir, et là, on ne pourra plus les toucher. Donc, c'est la fenêtre d'opportunité dont les Israéliens parlent depuis longtemps. Et là, pour faire ça, que faut-il ? C'est le billard à trois bandes. Il faut impérativement que les Iraniens réagissent d'une façon ou d'une autre. Et donc, c'est pour ça que cette attaque, c'est peut-être la fausse attaque, avant une attaque qui pourrait se passer après Pessah, après la Pâque juive, qui est lundi, de façon à ce moment-là à provoquer une véritable réaction iranienne.
Et en finir avec le...
Et en finir, parce que là, les Américains seront bien contraints, malgré eux, de se joindre aux Israéliens pour frapper. Tout simplement parce que s'il y a une attaque importante, eh ben, il va falloir mettre des ravitailleurs en l'air. Et les ravitailleurs en l'air, ça bénéficie à l'aviation israélienne qui n'en a pas.
Donc c'est également parce que les Américains... à trois bandes, on est bien dans l'Orient compliqué. Alain Pirot, derrière cette action israélienne la nuit dernière, que d'aller frapper l'Iran en son cœur avec des drones, voire des missiles, hein, puisque toute cette opération est mystérieuse.
Oui, parce qu'on ne doit pas oublier qu'un mot est sur toutes les bouches, en fait, au Proche-Orient, dans tous les dirigeants, depuis le 7 octobre, c'est l'idée de dissuasion. C'est-à-dire sa capacité à restaurer la dissuasion, c'était l'un des premiers arguments utilisés par Netanyahu.
On n'attaque pas Israël, c'est ça ?
On n'attaque pas Israël et on montre surtout à son ennemi que si on l'a attaqué, alors il va le payer très cher. C'est ce qui avait été fait au Liban et même Nasrallah, après la guerre du Liban, avait dit « Si j'avais su ce qui s'était passé, alors peut-être que nous n'aurions pas pris en otage à l'épaule des soldats israéliens. » On a oublié cette
notion. C'est ce qui se passe à Gaza en ce moment.
En fait, le cœur...
Gaza, oui, c'est en train de le payer très cher.
Ce qu'on ne doit pas oublier, c'est qu'une partie de la résolution de ce qui se passe actuellement, de cette surenchère permanente, c'est Gaza. Ce que les Israéliens ont toujours en tête, c'est Rafah. Là, ça a été mis en pause parce qu'on sait qu'il y a un certain nombre de choses qui se passent à la frontière libanaise et qui ont inquiété aussi l'état-major israélien. Mais la résolution de cette crise qui ne s'arrête pas depuis le 7 octobre passe par aussi une résolution de ce qui se passe à Gaza. Et on a tendance à oublier ces derniers jours. général Trinquant a évoqué qu'on oublie assez vite les choses. Étonnant de voir comme on ne parle presque plus de Gaza et de la situation à Rafah, alors que la volonté de l'état-major israélien, qui ne s'en cache pas quand, d'un certain nombre de sources, eux, ils ont très clairement en tête l'opération à Rafah de mettre à terre totalement le Hamas et d'arrêter le leader du Hamas pour avoir auprès de la population israélienne une vraie prise.
Et alors, on voit un Netanyahou, est-ce qu'il écoute Joe Biden? Et pourquoi Joe Biden, à ce point, exhorte les Israéliens à la retenue?
Mais Joe Biden exhorte les Israéliens à la retenue parce qu'il est dans la désescalade, pour des raisons effectivement domestiques, internes. Vous voyez, il n'y a pas que l'Iran, il y a tout, chaque pays a des raisons de politique interne. Il y a des élections aux États-Unis bientôt et il y a quand même une partie du potentiel électoral de Joe Biden qui est en faveur d'une retenue. Et on l'a bien vu avec ce qui se passe, c'est compliqué d'ailleurs ce qui se passe sur les campus universitaires américains avec des campements pro-palestiniens, etc. Mais pour revenir à ce qui vient d'être dit, le ministre des Affaires étrangères de Jordanie a déclaré aujourd'hui que les ripostes, je le cite, Israël-Iran, doivent cesser et qu'il y a une urgence à se focaliser sur Gaza. Parce que je rappelle que dans ce qui s'est passé quand l'Iran a dépassé cette ligne rouge et a attaqué directement Israël il y a une semaine, eh bien, les rafales français ont décollé de la base, d'une base en Jordanie, mais c'est effectivement dans la Jordanie a ouvert, la Jordanie a ouvert son espace aérien pour permettre justement de se défendre. Et ça n'a pas plu à énormément de Jordaniens. Donc c'est bien sûr, là il y a une différence, une dichotomie entre les dirigeants et entre les populations. Donc tout ça est loin d'être réglé. Et effectivement, aujourd'hui, eh bien, ça peut être une fausse attaque, comme dit le général Trinquant. En tout cas, si c'est une fausse attaque, elle s'est produite le jour de l'anniversaire du guide suprême. Mais, suprême iranien. Donc la vraie sera peut-être après Peshawar.
Isabelle Lasserre, pour revenir sur le rôle de Joe Biden, les Américains ne sont pas inquiets à l'idée de voir l'Iran posséder la bombe atomique? Parce qu'on a vu dans le reportage l'Iranienne, la dame voilée, disant « mort à Israël ». On voit que l'Iran veut la destruction d'Israël.
C'est-à-dire que les Américains avaient à plusieurs reprises, effectivement, dit eux aussi qu'ils ne laisseraient pas l'Iran se doter de la bombe nucléaire. Il y a eu des négociations très très longues et très douloureuses depuis 2003, faites par les Européens, et ensuite les Américains ont rejoint en fait ces négociations qui ont abouti à un accord qui s'appelle le JCPOA en 2015, qui a été quitté par Donald Trump, torpillé, parce que Donald Trump en fait espérait, quand il a fait ça, provoquer une pression intense sur les Iraniens et les faire capituler et les forcer à signer un accord plus robuste. Ça n'a pas marché. Après, les Américains ont à nouveau essayé en 2021 et 2022 de rejouer la diplomatie. Non, alors en fait, ce qui se passe, c'est que personne n'est résigné. Les plus durs sur le programme nucléaire iranien, alors moi je l'ai suivi pendant 15 ans, donc ce sont les Français. Et les Français ont souvent été alignés avec les Israéliens. Les Français étaient plus durs que les Américains, surtout à l'époque de Barack Obama. Donc, la France a les meilleurs spécialistes de lutte contre la prolifération quasiment...
Et on agit, là ?
Du monde. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, la défection de Donald Trump, plus ensuite la guerre en Ukraine qui a déplacé le centre de l'attention et qui, en fait, a provoqué un rapprochement entre la Russie et l'Iran. Et maintenant, on ne peut plus avoir de négociations avec l'Iran, parce que l'Iran fournit des drones à la Russie. Donc, les négociations sont mortes. Or, il n'y a pas de plan B. Donc, tous les diplomates français, les diplomates allemands, les diplomates américains qui ont passé 15 ans, mais des nuits blanches après nuits blanches, à essayer de convaincre les Iraniens de rentrer dans le droit chemin, et bien tous ces diplomates aujourd'hui sont silencieux, parce qu'en fait, ils n'ont pas de plan B. Et le seul autre plan... aujourd'hui, pour être, si on est réaliste, enfin, si, faut pas se cacher la voie, la négociation, l'accord est mort, la négociation, elle est capoute, l'Iran est au seuil nucléaire, et aujourd'hui, le seul moyen d'empêcher la bombe nucléaire iranienne, c'est de frapper militairement. Et encore, ça ne marchera sans doute pas, parce que les installations sont extrêmement enterrées, parce qu'on ne peut pas effacer la connaissance nucléaire. On peut retarder pendant 2 ans La technique. Je veux dire, on peut endommager des centrifugeuses comme on l'a fait avec un virus en 2008 qui s'appelait Stuxnet, comme les Israéliens l'ont fait avec plein d'attentats. Mais on ne peut pas annuler la connaissance de la bombe atomique. Or, je dis juste une chose. L'Iran, comme les autres pays, a regardé quoi en la guerre d'Ukraine ? Un pays qui, en 1994, au moment du mémorandum de Budapest, accepte de se débarrasser de ses ogives nucléaires en échange de garanties sur sa sécurité et son intégrité territoriale, et qui se retrouve la proie de son voisin géant. Donc le meilleur moyen de ne pas être attaqué, c'est d'avoir la bombe nucléaire. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les exemples des 20 années qui précèdent, que ce soit l'Ukraine, que ce soit la Libye, que ce soit l'Irak, ne sont pas de nature à faire renoncer le régime iranien à la bombe nucléaire, quel que soit ce régime. Parce que la volonté de bombe nucléaire, c'est traverse en fait les courants politiques.
Général Trinquant, ça change quoi si l'Iran a la bombe atomique là dans les mois ou les années qui viennent ?
Ça change d'abord, la première chose, c'est que le pouvoir iranien, j'allais dire comme la Corée du Nord, est assuré d'être protégé. Il ne peut plus être attaqué, puisqu'il aura l'arme nucléaire. Alors l'arme nucléaire, il est en phase de l'avoir, mais pour avoir une arme nucléaire utilisable, ça ne se compte pas en jours, ça se compte en mois quand même, hein. Ça prend un peu de temps. Mais c'est pour ça que mon point de vue est que la destruction des installations ou l'endommagement des installations va de pair avec une révolution de régime. Ça n'est pas que la destruction, et donc c'est la conjonction de ce qui se passe à l'intérieur de l'Iran,
la contestation sur le voile,
et la menace extérieure qui doit pouvoir atteindre un objectif. Tout seul, ça n'atteindra pas un objectif.
Anne Niva, comment interpréter les Russes, la position des Russes, qui ils se comportent comme nous, d'ailleurs, comme des Français. Ils appellent tout le monde à la retenue et ils disent même qu'ils jouent les intermédiaires entre Tel Aviv et Téhéran, qu'ils parlent aux deux. Sergueï Lavrov, il dit la Russie dit à Israël que l'Iran ne veut pas d'escalade.
Ben, vous l'avez dit, la Russie aime beaucoup jouer un rôle d'intermédiaire. Donc là, bien sûr que Lavrov est monté au créneau tout de suite. Ce qui s'est passé quand l'Iran a attaqué Israël il y a 8 jours a beaucoup gêné les Russes et la diplomatie russe, parce que Vladimir Poutine a une relation privilégiée avec Benjamin Netanyahou depuis longtemps, mais qui est compliquée par évidemment notamment le
7 octobre et la volonté de défendre les Palestiniens.
Bien évidemment, une délégation du Hamas a été
reçue
à Moscou à deux reprises après le 7 octobre. Et puis évidemment, les drones iraniens sont vendus à la Russie, ils se retrouvent en Ukraine. C'est d'ailleurs le président Zelensky, on va y venir, ne cesse d'en parler, c'est-à-dire les drones d'attaque que subit l'Ukraine depuis 2 ans sont justement ces drones Shahid iraniens.
Les drones qui visaient Tel Aviv sont ceux qui visent
exactement, ce sont les mêmes, ce sont ces drones Shahid. Il y en a eu un certain nombre qui sont partis de certains points d'Iran jusqu'à Israël la semaine dernière, ce sont les mêmes. Donc la Russie, elle veut jouer son rôle d'équilibriste. Elle veut évidemment montrer qu'elle est importante sur tous les plans. Mais le vrai allié de la Russie aujourd'hui, c'est l'Iran, bien sûr. C'est l'Iran. Avec la guerre que la Russie mène à l'Ukraine, elle ne peut pas se passer de son allié iranien, ne serait-ce que pour ses problèmes d'armement.
Alors justement, on y vient. Pourquoi les Occidentaux ne soutiennent-ils pas l'Ukraine comme ils l'ont fait pour Israël le week-end dernier ? C'est la question que pose Volodymyr Zelensky, alors que son pays a encore connu une semaine particulièrement meurtrière. Le patron de la CIA, lui aussi, sonne l'alerte. Sans aide supplémentaire, l'Ukraine pourrait perdre la guerre face à la Russie dès cette année, dit-il. Sujet de Luca Campisi et Ilana Azinko.
Un immeuble résidentiel en flammes, touché quelques heures plus tôt par des frappes aériennes russes. Plus d'une quinzaine de missiles, une dizaine de drones lancés contre le centre-ville de Dnipro, 8 morts, une vingtaine de blessés, tous des civils.
J'ai été réveillée par l'explosion. J'ai vu de la fumée dans la cour, quelque chose était en feu. Je suis alors sortie voir mes voisins. Ils étaient là, avec d'autres hommes, à ouvrir les portes d'immeubles et à dégager les décombres.
Ma fille a la main quasiment arrachée. C'est horrible. Je n'ai jamais vu quelque chose comme cela de toute ma vie.
Un drame supplémentaire dans une semaine particulièrement meurtrière. Mercredi, une triple frappe sur la ville de Tchernihiv coûtait la vie de 18 personnes. Des attaques aériennes quotidiennes menées par la Russie grâce notamment à des drones iraniens de type Shahed. Ces mêmes armes stoppées ce week-end au-dessus d'Israël.
Le monde entier a vu ce qu'était une vraie protection, a vu que cette protection était possible. Et surtout, le monde entier a vu qu'Israël n'était pas seul à assurer sa défense. La menace aérienne a été détruite par les alliés. Alors l'Ukraine rappelle à ses alliés que cette unité est la meilleure protection.
L'amertume du président ukrainien, d'autant que depuis l'été, Kiev marque le pas sur le front. Les tirailleurs ukrainiens, épuisés par des mois de mobilisation.
Nous sommes ici depuis 2 ans. Nous sommes fatigués, pour être honnête. Nous avons besoin de nous reposer.
Surtout, l'armée doit économiser ses munitions.
Il y a 1 an, nous pouvions lancer 200 obus dans la nuit. Maintenant, en fonction de la situation, c'est 10, 20 ou simplement 15.
Des difficultés exploitées par Moscou. Pour le porte-parole du Kremlin, la cause ukrainienne est déjà perdue.
En aucun cas, une aide ne peut changer la situation sur le champ de bataille. Tous les experts, les observateurs peuvent voir de leurs propres yeux la situation sur le front. Elle est loin d'être favorable du côté ukrainien et rien ne pourra y changer.
Pourtant, d'après Kiev, les armes occidentales sont décisives. Ce matin, l'armée ukrainienne communique ses images, celles d'une batterie anti-aérienne qui aurait abattu ce bombardier russe durant la nuit. Moscou reconnaît le crash, annonce la mort d'un membre d'équipage, mais invoque une défaillance technique. Dans sa course à l'armement, l'Ukraine peut compter sur l'aide d'un soutien de poids. Hier, le directeur de la CIA avertit : sans aide, Kiev tombera.
Un surplus d'aide militaire créera un engouement stratégique et psychologique. Les Ukrainiens arriveront à maintenir le front en 2024 et contrer les attaques de Poutine sur la zone. Sans assistance, la situation sera beaucoup plus complexe. L'Ukraine pourrait perdre d'ici la fin de l'année.
Une façon de mettre la pression sur les parlementaires américains. Après des mois d'attente, le Congrès doit se prononcer demain sur une nouvelle aide de 61 milliards de dollars.
Alors, général Dominique Trinquant, question d'Éric dans la Somme. Le dôme de fer, qui est très efficace, pourrait-il être envisagé à l'échelle de l'Ukraine ?
Non. La réponse simple est non. L'Ukraine est un pays très vaste, Israël un pays très petit, et donc le dôme de fer est très efficace sur ce pays très petit. Ça ne peut pas être appliqué à l'Ukraine. En revanche, j'écoutais ce que disait le président Zelensky, c'est vrai qu'il y a eu le dôme de fer. Mais il y a eu aussi l'aide américaine considérable. D'abord par les systèmes avancés, parce que les drones Shahed qui viennent d'Iran, ils mettaient 2 heures et demie pour arriver. Donc inutile de vous dire qu'on pouvait les détruire 25 fois avant qu'ils arrivent. Ensuite, ils traversaient des ciels, l'Irak, la Syrie, la Jordanie, on en a parlé, dans lesquels sont intervenus des avions français. Donc,
Que là, c'est frontalier entre l'Ukraine et la Russie. Non.
Alors que là, si vous voulez, la distance est telle que le dôme lui-même n'est pas possible. En revanche, une défense antiaérienne plus efficace, oui. Ouais. Alors, en particulier les missiles Patriot, enfin les systèmes Patriot plus exactement, les Allemands ont décidé d'en donner un supplémentaire, ce qui est une bonne nouvelle. Mais enfin, il faudrait multiplier par 2 ou 3. Et pas pour avoir un dôme de fer, simplement pour défendre les points principaux en Ukraine.
Alain Pirot, c'est vrai qu'on a vu un Volodymyr Zelensky particulièrement affecté. Et on le voit bien, ils sont à portée de missiles, les Ukrainiens, et ils ne peuvent même plus riposter. Le canonnier ukrainien disait, il y a un an, on tirait 200 missiles, maintenant c'est 10 à 15.
Parce que ce qui le met en colère, c'est la capacité à alimenter ces batteries antiaériennes. Alors, il y a deux choses, effectivement. C'est-à-dire que vous avez des zones qu'on ne peut pas protéger. Et la colère de Zelensky, c'est de voir les Russes attaquer ces zones, notamment les centres des villes, d'Inniplo aujourd'hui, on l'a vu à Tcherniv.
Et ils se sont améliorés avec des bombes planantes, dit-on maintenant.
Ouais. Plus, ah, il y a eu aussi cette logique de bombes planantes et du bricolage, mais du bricolage qui marche très bien. Ouais. Et qui est extrêmement terrible pour les...
C'est-à-dire qu'on ne largue plus la bombe.
On la largue beaucoup plus loin.
On la largue de loin et elle plane. Avant d'atteindre
exactement, et votre moyen aérien est dès lors mieux protégé. Mais ce qui le met en colère, il y a des exemples très précis, il en sort un d'ailleurs dans l'interview. Vous avez eu un certain nombre d'unités énergétiques qui ont été attaquées cette semaine, notamment une usine très importante à Kiev qui assure une partie de l'alimentation électrique, c'est Tripilska. Tripilska a été visée par 11 missiles, ils en ont intercepté 7. Les 4 qui restaient ont détruit l'usine, ce qui va avoir des conséquences catastrophiques pour la ville. Pourquoi ils n'ont pas été interceptés? Pas parce qu'on les a ratés. Parce qu'à ce moment-là, les batteries anti-aériennes n'étaient plus alimentées. Il n'y avait plus de munitions. Et c'est ça, sa colère. C'est de voir ce qui se passe en Israël, une alimentation en logistique, eu égard au fait que l'industrie israélienne a les capacités aussi d'alimenter. Mais il y avait l'aide américaine, il y avait l'aide européenne à protéger le ciel. Et ça marche. Il a raison de dire qu'on a une démonstration effective de quelque chose qui fonctionne. Donc la colère, elle est légitime. La capacité à alimenter aujourd'hui les batteries aériennes est quasiment nulle dans un certain nombre d'endroits. Et donc la colère aussi de Zelensky, c'est de dire, si vous ne prenez pas très vite les choses en main, alors ça va être encore pire dans les semaines qui viennent.
Alors Aniva, précisément, est-ce que tout se joue demain, puisque le Congrès américain doit voter pour ou contre cette fameuse aide de 60 milliards dont une partie est destinée à l'Ukraine? On a entendu dans le reportage le patron de la CIA dire sans aide supplémentaire, l'Ukraine pourrait perdre la guerre cette année.
Oui, alors il n'y a pas que lui qui le dit, c'est à peu près tout le monde qui le dit. Donc c'est vraiment quelque chose de clair et net. Ce package qui devrait être voté demain, ce qui n'est pas sûr, effectivement, ça fait très longtemps que les Ukrainiens l'attendent. 60 milliards. Bon, là, on ne va pas rentrer dans des considérations de politique politicienne aux États-Unis, mais il se trouve que Mike Johnson, qui est le chef républicain de la Chambre des représentants, qui a proposé ce vote demain, a changé d'avis. C'est-à-dire que jusqu'à présent, jusqu'à il y a quelques jours, ben, il est trumpiste, hein. Donc il est très républicain, très trumpiste. Il n'était pas du tout en faveur de ce vote. Mais là, il a compris que c'était déterminant pour l'Ukraine et il a besoin de voix de démocrates à la Chambre de représentants pour pouvoir le voter. Donc on va voir ce qui va se passer demain. Mais et effectivement, c'est capital. Parce que moi, je voudrais revenir à cette colère de Zelensky. On l'a souvent vu en colère, mais jamais à ce point-là, qui, selon moi, il pose une question essentielle.
Parce qu'il était optimiste hein, jusqu'à présent.
Parfois, il n'a pas été optimiste. Hein. Parfois, il a baissé les bras. Parfois, il a été vraiment en colère. Mais c'est son rôle de continuer à s'exprimer. Et là, je trouve que ce qu'il dit est tout à fait poignant. C'est une question qu'il pose, qui est quasi philosophique, c'est est-ce que les vies humaines ont toutes la même valeur, finalement? Parce qu'il l'a dit, ça. Les vies humaines sont-elles différentes? Et il sous-entendait, est-ce que nous, Ukrainiens, nous sommes moins importants? Notre vie humaine est-elle moins importante que celle d'autres personnes?
Les Israéliens?
Exactement, c'est ce qu'il sous-entendait, bien évidemment. Alors, bien évidemment qu'il y a cette grande différence, que ce qu'il oublie, ce qu'il ne dit pas, c'est que les missiles, les drones iraniens, ils sont passés par 3 pays, effectivement, par 3 pays dans lesquels il y a des bases américaines, hein, dont l'Irak, la Syrie, la Jordanie, etc. Ce qui n'est pas le cas dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Mais on peut comprendre cette révolte, le fait qu'il a vu une coalition se dresser quasi immédiatement, en quelques heures, donc en ce qui concerne la coalition face à l'Iran, alors que lui, il peine pour avoir cette réaction-là. Et il n'y a pas que lui qui pense ça, parce que souvent dans mes reportages sur le terrain en Ukraine, j'ai vu qu'il n'y a pas forcément une adéquation totale entre les propos de Volodymyr Zelensky et ce que pense la population ukrainienne. En revanche, Là, il y a vraiment une symbiose. Parce qu'effectivement, c'est du bon sens pour tout le monde de se dire, ah ben voilà, nous, on ne nous aide pas et là, on en a la preuve physique.
Isabelle Lasserre, sans aide supplémentaire, l'Ukraine pourrait perdre la guerre dès cette année. Est-ce que les Européens, du coup, doivent muscler leur jeu? Alors, je cite en plus Donald Trump qui dit, comment se fait-il que les États-Unis aient engagé plus de 100 milliards de dollars dans la guerre en Ukraine, plus que l'Europe, alors qu'un océan nous sépare.
Alors, deux choses quand même sur, le sur la défense antiaérienne. Une défense antiaérienne, c'est très consommateur de munitions. La Russie et l'Iran et ses affidés ont la même stratégie, ce qui est une stratégie d'essayer de saturer les défenses antiaériennes. Ça marche en Ukraine, mais attention, ça pourrait aussi finir par marcher en Israël, parce que Israël, sans la, en fait, sans la fourniture constante de recharge de munitions pour sa défense antiaérienne, ça risque d'être très compliqué. Donc, Israël pourrait aussi s'inspirer de l'effet négatif en Ukraine. Par rebond, qui pourrait lui arriver dans quelques temps. Après, sur l'histoire, c'est toujours la même histoire. Est-ce que l'Europe va se réveiller? Qui se réveille, qui sort du vieux monde des bisounours, qui a compris que, en fait...
On a l'impression qu'on ne les a pas, en fait, ces stocks.
Mais, en fait, non, d'abord, il y a une volonté qui commence à être là.
Alors, les Tchèques disent qu'il faut acheter aux Argentins, acheter livrer...
Oui, mais alors, il y a plusieurs choses. Il y a la volonté politique qui ne va pas jusqu'au bout, avec des hésitations, des freins, qui n'est pas une... de l'Allemagne, qui viennent de la Hongrie, qui sont venus à un moment de la France. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ensuite, il y a le problème financier et le problème militaire. C'est-à-dire, c'est toujours la même histoire. On peut déconstruire une armée très, très rapidement en 5 ans, mais reconstruire une armée, c'est des programmes qui prennent 20 ans ou 30 ans. Et la troisième chose, c'est toujours la même chose. En fait, ils ne le disent pas, mais les Occidentaux ont peur de la menace nucléaire russe. Et c'est ça la vraie différence. Et c'est pour ça que l'Europe, c'est une des raisons pour lesquelles l'Europe n'a pas fourni suffisamment d'armes à l'Ukraine.
Qu'est-ce qu'on répond, général Dominique Trinquant, à ce canonnier ukrainien qui disait, moi, il y a un an, je tirais 200 canons par jour, 200 boulets par jour, enfin 200 obus, maintenant c'est plus que 10 à 15.
Eh bien, on répond ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire que dans la fabrication des obus, puisque je rappelle, il y a les obus de type soviétique 122-152 et les obus de type occidentaux 155. Sur les 155, nous sortons de la vie des bisounours. Donc la remontée en puissance,
on en a pas.
C'est fin 2024-2025. Donc vous n'aurez pas...
C'est trop tard.
Non, bien sûr.
Le patron de la CIA dit que l'Ukraine aura perdu.
Bien sûr. Alors, il y a les obus de 122 et 152. C'est le plan du président tchèque, c'est-à-dire d'acheter 1 million d'obus à l'extérieur. Et ça, ça a commencé. Et
En Afrique, en Amérique du Sud?
Ouais, surtout au Pakistan, enfin dans des pays qui sont équipés avec des pièces d'artillerie de type soviétique. Donc ça, c'est en cours, mais ça va
c'est
prendre
long.
Du temps. Tout ceci va prendre du temps. Donc je crois que le problème, c'est que cette guerre qui est arrivée il y a 2 ans, aucun des Européens ne l'avait anticipée. La France avait anticipé sa remontada budgétaire, mais pas vraiment dans le contexte dans lequel on le prévoit aujourd'hui dans la guerre de haute intensité. Donc tout le monde met l'accélérateur maintenant, mais ça prend du temps. Ça prend du temps.
Alain Pirot, sur le terrain militaire, oui, les Russes, à l'usure, sont sur le point d'emporter le morceau, comme le patron du CIA.
Alors, je suis plus nuancé. Je comprends l'avertissement du patron de la CIA, déjà parce qu'il y a le vote qui se joue samedi, donc ça coûte rien de remettre un peu de tension. Ouais. Et puis, parce qu'il y a des réalités sur le terrain, effectivement, c'est une partie des faibles gains territoriaux qui avaient été réalisés par l'armée ukrainienne lors de sa contre-offensive ont été quasiment perdus, voire même annihilés totalement. Je suis plus nuancé parce que moi, je trouve, depuis plusieurs semaines, on n'a pas l'occasion toujours de le dire, qu'on voit l'armée russe beaucoup plus belle qu'elle ne l'est.
Ouais.
Je trouve qu'avec les moyens dont disposent les Ukrainiens, je suis impressionné des résultats qu'ils obtiennent face à une armada militaire, notamment en termes d'hommes. On ne dit pas assez que les Russes perdent quasiment, depuis le mois de février, 1000 hommes par jour. Ils perdent des dizaines d'équipements à chacun.
Alors les Russes acceptent comme ça, les fantassins, d'aller au combat, pour un combat qu'ils ne comprennent pas tellement, et d'y perdre la vie?
Mais parce que vous voyez, c'est une excellente information, parce que vous avez un certain nombre de témoignages qui ressortent des réseaux sociaux, de soldats russes qui démontrent qu'ils ont été poussés par d'autres qui le menacent de les fusiller s'ils n'avancent pas sur le champ de bataille.
Leur supérieur, comme dans la Seconde Guerre mondiale.
Il y a même une vidéo qui est sortie cette semaine, terrible, où un chef humilie un de ses soldats qui, visiblement, n'est pas allé sur la ligne de front. Donc, les soldats qui se font tuer cette chair à canon russe, ils le font parce qu'ils n'ont pas le choix.
Des deux côtés, ils ont des fusils, quoi.
Exactement, mais c'est une réalité qu'on ne dit pas assez. C'est-à-dire que la capacité des Russes, aujourd'hui, à avancer malgré les équipements On voyait la chute d'un avion stratégique TU-22. Le tir s'est fait en dehors des frontières. Donc, c'est-à-dire la capacité des Ukrainiens, malgré le peu d'équipement qu'ils ont, à avoir des game changers sur le terrain, moi, m'impressionne énormément. Alors évidemment, ils font avec les moyens qu'ils ont. Et donc, ils résistent. Ce qu'ils font actuellement à Avdiivka, l'inquiétude, elle est plutôt dans le Donbass. Ce qu'on comprend ces dernières semaines, c'est que les Russes ont un objectif. Une victoire pour le 9 mai, pour la fête nationale, et saisir le Donbass, qui sera au final...
La victoire de la Grande Guerre patriotique.
Voilà. Général Trinquant, votre appréciation sur le terrain, c'est vrai qu'on a vu cet avion dont on dit que c'est une première, hein, qu'il ait été abattu ainsi...
Alors moi, je confirme tout à fait, l'armée ukrainienne est impressionnante. Moi, j'ai eu des démonstrations sur l'utilisation des drones par les Ukrainiens, c'est absolument incroyable. Mmh. C'est la start-up, si vous voulez, qui fait ces trucs comme ça. Deuxième point, sur les Russes...
Quand on dit que la Russie va gagner cette année...
Gagner quoi ?
Ça veut dire
quoi ? C'est ça la question. Oui. Moi, la chute de Kiev, j'y crois pas. En revanche, que le Donbass, Luhansk, les deux oblasts du nord, là, Donetsk et Luhansk, soient gagnés par la Russie, c'est l'objectif stratégique de la Russie. Parce que ça leur permet de dire, ça y est, on a libéré les peuples russophones, et donc on a rempli notre victoire. Alors, je rappelle qu'il reste deux oblasts qui, normalement, ont été annexés, hein, Kherson et Zaporizhzhia. Et là, je suis beaucoup moins sûr. Kherson,
pourquoi la chute de Kiev, vous n'y croyez pas ?
J'y crois pas parce que, d'abord, clairement, pour les Occidentaux, ils ne laisseront pas faire. Ils ne laisseront pas tomber.
Là on entre en confrontation.
Et là, à mon avis, la Russie le sait. Et elle n'a pas intérêt. Parce que qu'est-ce que ça veut dire ? L'occupation de l'Ukraine par la Russie ? Les Américains vous diraient « no way ».
C'est l'Afghanistan.
Ça va être un chambard pendant des années. Ça n'est pas possible. Après la saignée de l'armée russe, elle n'est pas capable de s'imposer sur l'ensemble du territoire ukrainien. Donc je pense qu'il y a des objectifs beaucoup plus pragmatiques qui sont... Il y a quatre oblasts qui sont annexés à la Russie. On va déjà en prendre deux. Les deux autres, je suis moins sûr. Parce que Kherson, franchement...
Vous parlez de Luhansk et Donetsk, qui sont déjà en partie annexés. Ouais. C'est-à-dire qu'il reste des morceaux de chacun de ces deux oblasts qui ne sont pas pris totalement.
C'est ce qu'ils veulent obtenir, clairement, pour pouvoir dire on a gagné la guerre.
Anne Niva, question téléspectateur. Volodymyr Zelensky est-il prêt à envisager des pourparlers de paix avec la Russie ?
Ah non, pas du tout. Il n'a pas du tout l'intention, Volodymyr Zelensky, d'envisager le moindre pourparler.
Est-ce qu'il n'y a pas un début d'idée ? Tiens, on est en train de faire notre deuil du Donbass.
Non, il n'y a pas de deuil. Franchement, quand on écoute Volodymyr Zelensky, il n'a pas du tout...
Et est-ce qu'il n'y a pas une lassitude des Ukrainiens ?
Oui, c'est différent. Ça dépend à quels Ukrainiens on parle, bien sûr. Les militaires, ceux qui font la guerre, ceux qui sont sur le front, ceux qui sont à l'avant, ne sont pas du tout dans cet état d'esprit. En revanche, il y a des Ukrainiens, bien sûr, dans tous les 44 millions d'Ukrainiens qui sont à l'arrière, qui ont envie que la guerre cesse, oui. Et ça, je dirais, ils ont absolument le droit. De toute façon, nous sommes bien tranquillement dans ce studio en train de parler. Ceux qui subissent, ceux qui sont dans la réalité, ce sont les Ukrainiens. Donc on ne va pas me dire que quand il y en a un qui dit « je voudrais que la guerre s'arrête », il est pro-russe. Hein,
il a parlé d'une paix juste, Volodymyr Zelensky.
Volodymyr Zelensky, il a, au tout début de la guerre, souvenez-vous, au printemps 2022, là, il a été question pour parler de paix. D'ailleurs, il y a eu deux sessions qui ont eu lieu. Mais c'était avant que les Occidentaux se mettent en marche, si je puis dire, même si cette marche est relativement lente, c'est-à-dire pour l'aide, pour aider concrètement les Ukrainiens. Boris Johnson, quand il a commencé le premier à arriver sur le territoire ukrainien, je peux vous dire qu'ils n'ont plus du tout eu envie, les dirigeants ukrainiens, de parler, de négocier.
Donc il y a une radicalisation.
Donc c'est bloqué. Pour le moment, c'est bloqué. On est dans une guerre d'attrition, c'est bloqué. Les Russes attendent la réélection, entre guillemets, ils la souhaitent, de Trump. Et c'est là-dessus qu'ils espèrent, bien sûr. Trump qui, lui, a fanfaronné en disant que s'il était réélu en 24 heures, il réglerait cette guerre.
Alors, la France n'est
pas du tout sûr, bien évidemment.
La France est-elle prête à entrer en économie de guerre ? La question est revenue à la une depuis le début du conflit en Ukraine. Pour être prêt, Emmanuel Macron incite les industriels à produire davantage et plus rapidement. Mais cette accélération se heurte à plusieurs obstacles. Explication de Mathieu Lignot et Arnaud Fora.
C'est devenu le missile français incontournable des conflits actuels. L'Aster est utilisé en mer Rouge par les frégates pour détruire des armes ou des drones lancés par les Houthis du Yémen. Ce système de défense aérien a aussi été donné à l'Ukraine pour protéger son ciel. Un missile de haute technologie que le ministre des Armées aimerait voir fabriqué et livré plus vite.
Vous avez vu les délais qui sont affichés. Les 200 missiles Aster ont été commandés par le ministère des Armées. J'en ai validé la commande en janvier 2023, il y a plus d'un an, avec des délais de livraison qui nous emmènent à fin 2025. Je reviens pas sur le nombre de missiles que la Marine nationale a dû tirer en mer Rouge en seulement quelques semaines, mais vous voyez bien que désormais on a un décalage entre la capacité à produire et à livrer et l'utilisation même de ces missiles.
Un coup de pression à l'industriel MBDA. Mais selon son président, ce n'est pas si simple. L'Aster nécessite près de 10 000 pièces et de la matière première que tout le monde s'arrache.
On a fait des stocks et on continue à faire des stocks, à la fois de composants électroniques et de matières premières.
De l'acier, beaucoup d'acier.
Beaucoup d'acier, effectivement. Donc nous utilisons des aciers très spéciaux, on appelle ça des nuances d'acier. Et donc, par exemple, sur ces nuances d'acier, aujourd'hui, on a déjà fait un stock de 80 tonnes, alors que chaque année, on en utilise à peu près 4 ou 5. C'est pour vous donner une idée de l'anticipation que nous faisons.
Le monde entier se réarme, la France se réveille. Le pays ne fabriquait plus de poudre à canon depuis 2007. Alors la semaine dernière, Emmanuel Macron inaugure une future usine pour relocaliser sa production à Bergerac.
Le monde dont nous parlons, il ne s'arrêtera pas si demain la guerre se termine. Parce qu'il y a un réarmement massif qui s'est opéré ces derniers temps de la Russie. Et parce que vous voyez partout en Europe les dépenses militaires, les commandes augmenter, et partout à travers le monde une géopolitique qui change.
L'économie de guerre, le terme est martelé par le président depuis 2 ans. Les industriels mettent les bouchées doubles. Production triplée pour le désormais célèbre canon César. Augmentation aussi des obus. Les commandes affluent. 6 milliards d'euros pour Thalès et ses radars, 5 milliards pour Dassault, 4 milliards pour Naval Group, 3 milliards pour MBDA ou encore 2,5 milliards d'euros pour Nexter, KNDS et Arcus. Malgré tout, selon nos informations, certains industriels s'inquiètent. Ils souhaiteraient une meilleure visibilité sur les commandes et les contrats, un bras de fer avec l'État. Pour ce représentant du secteur, l'État doit accompagner les entreprises.
On a fait un choix il y a 50 ans de quitter le modèle des arsenaux pour confier à l'industrie privée le développement et la production des équipements militaires. Donc, ils sont tenus par les règles de l'industrie privée. Et donc, la prudence fait partie là. Donc, il faut une prise de risque mesurée dans ce domaine. Et c'est là où le dialogue avec l'État est important, pour bien voir quelles sont les priorités, comment est-ce que l'on peut partager les risques entre l'industriel et l'État. Et je peux vous dire que ce dialogue est soutenu.
L'industrie de défense, ce sont 9 grands groupes, mais aussi 4000 PME. Elles peuvent être plus fragiles, selon ce syndicaliste.
On est sur une filière avec des temps très longs, avec des produits extrêmement complexes, donc anticipation. Deuxièmement, budget et commandes associées sur le long terme, puisque ça nécessitera des investissements industriels majeurs, mais aussi des investissements humains, recrutement, etc.
Exemple d'une PME stratégique en difficulté, les forges de Tarbes. Dans la seule usine de cordes obus de France, le carnet de commandes est plein. Mais la production s'est arrêtée pendant 4 semaines en février. Les salariés critiquent un manque d'investissement. L'économie de guerre ne se décrète pas.
Ça, c'est clair. Bon, Aniva, c'est quoi le problème? Parce qu'on voit bien, on a toute la filière. On a vu toutes les entreprises, MBDA, Safran, Dassault, Thalès, Naval, Nexter. Ils sont capables de fabriquer des Césars, des sous-marins, des Rafales. Mais en fait, ce sont des entreprises privées, donc elles produisent si c'est rentable.
On est dans l'excellence en France, donc effectivement, on a tout, ça a été dit, on le sait tous, mais effectivement, ça a été dit dans ce très bon sujet. Du moment qu'il n'y avait plus de commandes d'État, qu'on n'était plus du tout dans cet état d'esprit-là, tout est devenu privé, c'est l'économie privée qui domine le monde, et bien sûr, ces entreprises, elles réfléchissent de voir ce que ça va leur rapporter, elles ne veulent pas être dans une incertitude totale, et ça n'est pas parce qu'Emmanuel Macron a décrété il y a 2 ans que nous étions en économie de guerre, que nous le sommes. Donc nous ne le sommes pas encore, et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les industriels qui sont responsables de cette économie. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y aller. Mais économie de guerre, c'est quand même un mot très très fort. Hein.
Il faut les nationaliser.
Pour moi, il y a deux pays qui sont en économie de guerre aujourd'hui, c'est ceux qui font la guerre. C'est-à-dire c'est la Russie et l'Ukraine. Eux, ils sont en économie de guerre. Et la Russie s'y était préparée, et l'Ukraine non, puisqu'elle a été envahie. Mais nous, la France, on est très très loin de tout ça. Donc on a beaucoup de travail.
Alain Piron, on a vu un antimissile, les missiles là, qui vont abattre...
Michel Esther,
le nom m'échappait. Ça vaut, vous me disiez. Parce qu'ils abattent quoi? Ils abattent aussi bien des drones tirés par les Yéménites qui valent quoi? 10 000 euros. Mais le missile, lui, il vaut 1 million.
Alors ça, c'est une des données de la guerre aujourd'hui. C'est la capacité à mobiliser des armements qui coûtent très cher pour abattre quelque chose qui ne vaut pas cher. Ça, c'est la problématique financière de la guerre aujourd'hui. C'est-à-dire, faut-il mieux investir dans des milliers de petits drones low-cost qui vont détruire des blindés qui coûtent plusieurs millions d'euros? Faut-il investir dans des missiles qui coûtent 1 million d'euros mais qui sont durs à fabriquer? Ça, c'est une autre question. Et on essaye de tout faire, encore une fois. La problématique, c'est est-ce qu'on a les hommes et les femmes pour fabriquer ces outils? Le problème de l'économie de guerre décrétée par le président Macron, c'est que vous pouvez demander aux entreprises de faire des stocks. Vous pouvez leur demander de trouver des métaux. Si vous n'avez personne après pour fabriquer, Bourges, MBDA à Bourges, c'est 189 postes aujourd'hui.
MBDA, on a vu le patron là, interrogé sur France Info.
189 postes à pourvoir à MBDA à Bourges, rien qu'à Bourges.
Ils font les missiles.
Ils font les missiles. Ils trouvent personne. Moi, j'ai des entreprises qu'on contacte, notamment qui travaillent sur le Rafale de Dassault. Les pièces fabriquées à la main, ils trouvent personne aussi.
Pourtant, Isabelle Lasserre, c'est curieux parce qu'il y a 10 ans, on aurait eu honte. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'on se réjouit de voir que la France est devenue le deuxième marchand de canons au monde. Ça veut dire qu'on est la deuxième puissance de défense au monde en termes d'équipement.
Exportateur.
Oui, mais... Ça, c'est une chose, mais c'est déconnecté de l'économie de guerre.
C'est-à-dire qu'on exporte.
C'est beaucoup plus facile d'être en économie de guerre quand on est une dictature ou une autocratie, comme la Russie, que quand on est une démocratie, comme la France. Qu'est-ce qu'il a fait Vladimir Poutine? Du jour au lendemain, il a demandé à ce que toutes les usines soient réouvertes, qu'elles fonctionnent 24 heures sur 24, et ça s'est produit en 48 heures. Mais il n'y a pas de 35 heures en Russie, il n'y a pas de RTT, il n'y a pas de droit du travail, c'est beaucoup plus facile. Allez faire la même chose en France, vous allez voir les manifestations. En plus, on a un problème d'argent, c'est-à-dire qu'on a un modèle économique et social qui est quand même très ancré dans la société. Et une économie de guerre, je parle sous le contrôle du général, mais ça va être pousser notre budget de défense à 4%, ce que fait... Hein, 4%,
là, on n'est même pas à 2. Hein.
Ce que fait la Pologne. Mais qu'est-ce que ça veut dire, 4%? Ça veut dire qu'on rogne ailleurs. Et où on rogne? On rogne dans la culture et dans les dépenses sociales. Ça va coincer en France. Vous voyez, il y a toutes ces problématiques, en fait, qui sont très compliquées à gérer. Et puis, alors après, il y a aussi... le problème culturel que la France n'a pas, parce que la France a une culture guerrière, elle a une armée d'intervention qui a toujours fait des opérations extérieures, c'est une puissance nucléaire, elle est un des 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU, donc les deux pays européens qui ont une armée de combat et qui savent ce que veut dire se battre et la guerre, c'est le Royaume-Uni et la France. Mais les autres pays européens, l'Allemagne, qui était pacifiste, tous les bisounours qui se sont complètement débarrassés de leurs armées. Vous comprenez? En fait, réintégrer l'idée d'une culture qui intègre la possibilité de la guerre et donc la nécessité de la faire...
Ça demande un travail intellectuel.
Des années. On ne sort pas comme ça du cocon dans lequel on s'était volontairement lové sous la protection bienveillante des États-Unis qui... hésite aujourd'hui.
Général Trinquant, sur cette filière de défense dont on peut être fier.
Oui, on peut en être très fier, mais vous voyez, c'est intéressant, pardonnez-moi, ce n'est pas pour vous vexer, mais quand vous employez les marchands de canons.
Eh ben, exprès, je l'ai dit, parce que c'était l'expression qu'on employait avant.
À l'époque.
Moi qui travaillais chez Lagardère, on me disait, t'as pas honte de travailler chez un marchand de canons.
Voilà, c'est très péjoratif. Et ça rentre dans tout ce que vient de dire Isabelle et ce que vous avez dit sur la mentalité. Ce monde de bisounours, je vous donne quelques exemples. Les banques ne pouvaient pas prêter aux PME ou ne souhaitaient pas prêter aux PME de l'industrie de défense parce que la défense, c'est sale. Et donc, des banques qui voulaient, des PME qui voulaient investir, qui demandaient qu'on leur prête de l'argent, on leur disait non, vous ne pouvez pas, vous êtes dans la dette.
Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Alors, à tel point qu'on dit que le livret A doit servir à financer l'industrie de défense.
Attendez, on n'y est pas. Ce n'est pas décidé.
Oui, c'est pas décidé.
On n'y est pas.
C'est pas décidé.
Pas.
Et on en parle.
Et sur la mentalité dont je vous parlais, on vous plaçait la défense comme la toxicomanie. Vous voyez, vous fumez des cigarettes, c'est pas bien. Eh bien, la défense, c'est pas bien. Et donc, c'était pareil. Tout à l'heure, on voyait Eurenco fabriquer de la poudre. Vous vous rendez compte que la France avait mis son usine Eurenco en Suède. Parce qu'en France, c'était pas possible. Ah, oui. Parce que, pour des tas de critères, etc. Donc, toute cette mentalité doit changer. Alors moi, comme je suis toujours un optimiste, je regarde le sondage qui est paru la semaine dernière, qui a été rendu public la semaine dernière, sur la jeunesse. Les moins de 35 ans. Parce que les bisounours, c'est entre 35 et 60 ans. Vous voyez, c'est les gens qui ont vécu la période de la paix, les post-68, etc. Les moins de 35 ans, eux, moi, ça m'a sidéré. Bah, il y a un sondage dans lequel on dit, ben non, mais attendez, défense de la patrie, oui, et puis on va y aller.
Ouais, mais défense des RTT aussi, hein, chez les jeunes.
Allez.
On va y aller, on va y aller.
Bon, tout de suite, on va aux questions téléspectateurs. Alors, Aniva, question de Régis. Et les avions F-16 promis par les Occidentaux, ils arrivent quand en Ukraine ?
Ah bah ça, je pense que vous devriez poser la question à mon voisin parce qu'il vient de me glisser qu'il connaissait la date.
Ah bon ?
J'exagère un peu.
En tout cas, ce qui est annoncé, c'est plutôt une arrivée avant l'été. C'était déjà une progression parce que les premiers calendriers étaient plutôt après l'été. Ce qu'on comprend ces derniers jours, c'est que le terrain se prépare aussi pour cette arrivée. C'est-à-dire qu'il y a eu un certain nombre de radars de détection russes qui ont été détruits et qui étaient à l'intérieur de leurs frontières, notamment en Crimée. Donc on sent qu'il y aura un moment F-16.
Ça change quoi d'avoir des F-16
Ça donne une capacité. Déjà, il faut dire que la guerre aérienne est gagnée depuis le début par la Russie et que les Ukrainiens n'ont pas assez de moyens pour contrôler le ciel. Et on le voit aussi sur la capacité à détruire.
Ils ont des vieux avions soviétiques, eux. Hein,
oui, puis ils en ont perdu un certain nombre depuis le début du conflit. Et la capacité à les réparer aussi est une énorme problématique. L'avion F-16 est un avion extrêmement moderne, que beaucoup de spécialistes vous diraient en capacité de faire face ou de dominer des avions russes. Après, il faut le pilote, il faut qu'il soit formé et habitué à ces équipements-là. Mais il y aura un moment F-16, il y aura une émission F-16
dans
le Paris, et on verra ce que ça donnera sur le terrain. Mais ça ne suffira. Le F-16, ouais. Attention, ouais. On en annonce 4.
4 F-16.
C'est, pour l'instant, on en annonce 4, donc ce n'est pas non plus pas une armada qui arrive. Mais
pour le symbole, néanmoins, avoir des avions américains qui tapent l'armée russe.
Mais pas simplement
ça. C'est l'aller demander aux Ukrainiens s'ils sont contents d'avoir juste un symbole.
Il faut être clair, le F-16 ne renversera pas complètement les données de la guerre, ça sera utile dans l'ensemble. Mais au passage, on parlait tout à l'heure d'armement, on n'a pas parlé de la balance États-Unis-Europe. Si vous voulez, la manœuvre américaine est fantastique. OK, les pays vous donnent vos F-16, nous, on vous vend des F-35, qui valent à peu près 10 fois le prix du F-16. Et donc, c'est une manœuvre. Vous savez qu'aujourd'hui...
Les Américains profitent de la guerre en Ukraine pour vendre de force des F-35 aux Européens.
Et c'est un argument Polonais, pour le Congrès demain, parce que les 60 milliards américains vont acheter de l'armement américain. Oui. Et donc, c'est un argument pour eux, pour les entreprises américaines, etc., votez parce que ça va être intéressant pour vous. Oui. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, les Européens, ils achètent 70% de leur équipement américain. Et là, il y a un gros effort à faire. Je rappelle qu'il y a des élections européennes dans pas longtemps. Oui. Il y a un gros effort à faire pour les Européens pour arriver à se coordonner et ne pas distribuer de l'argent à droite et à gauche à des tas d'entreprises au lieu de se coordonner pour fabriquer ensemble les équipements dont l'Europe a besoin pour se défendre et non pas dépendre des 200 000 électeurs américains qui voteront d'un côté ou de l'autre.
Anne va pour faire mentir le patron de la CIA, Michel en Belgique. Les armes pour l'Ukraine arriveront-elles à temps ? Vous êtes pessimiste quand même sur l'issue ?
Je suis partagée. Je pense que ça dépend davantage de capacités, d'aptitudes politiciennes de la part de ce chef de la Chambre des représentants plutôt que d'aider réellement l'Ukraine. Et d'ailleurs, on vient de le dire, puisque de toute façon, qu'est-ce qu'il y a derrière ? C'est évidemment le business.
Allez, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. T'es dans l'air et rediffusé, je le rappelle, en direct sur toutes les bonnes plateformes en podcast. Et puis nous, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Bonne soirée sur France 5.
Vous venez d'écouter C'est dans l'air, c'est un podcast France Télévisions. N'hésitez pas à vous abonner. C'est dans l'air est disponible gratuitement sur toutes les plateformes audio, en vidéo, disponible sur francetv.fr. À très bientôt.